Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Et si on faisait autrement ?», le podcast de Mapinfo, le média des actions positives en Bretagne. Je suis Xavier de Bontride et aujourd'hui, je vous invite à partir à la rencontre d'un chercheur et d'un entrepreneur engagé. Nous sommes à Morlaix, au siège d'Emarina, en compagnie de son fondateur, Franck Zahl. Il a mis au point un procédé unique d'extraction de sang de vers marin, dont les applications dans le domaine de la santé humaine sont immenses. Bonjour Franck.
Bonjour Xavier.
Alors je suis très heureux d'être avec toi ici à Morlaix. On va décrire dans quelques instants le lieu où nous nous trouvons. Parce qu'en fait, on se connaît, Franck, depuis déjà de longues années, peut-être une quinzaine d'années. Moi, je suis, comme tu le sais, journaliste et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de suivre tes aventures. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de lire ton ouvrage que tu viens de publier qui s'appelle « Un trésor sous le sable » où tu racontes vraiment ton aventure avec tes mots, avec ton cœur aussi. Et en ayant terminé cette lecture, je me suis dit que s'il y avait bien quelqu'un qui faisait autrement dans son métier, dans son approche, c'était toi. Et j'ai eu envie de t'inviter derrière ce micro pour cette nouvelle épisode « Et si on faisait autrement ?» Et tu as eu la gentillesse d'accepter. Alors aujourd'hui, nous sommes chez toi, ici, chez Emarina, la société que tu as créée. Nous sommes à Morlaix, dans une ancienne pépinière d'entreprise, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est une pépinière qu'on a colonisée bureau par bureau. Et aujourd'hui, en fait, tu es dans les locaux en fait, de la société, avec une partie, en fait, comme on a vu tout à l'heure, une partie tertiaire et puis une partie laboratoire.
On va peut-être débuter par une définition, une tentative de définition de l'activité d'Emarina. Emarina, sa vocation, sa raison d'être, c'est la santé, mais pas n'importe comment.
Non. En fait, la vocation, l'objectif premier, et c'est ce qui m'a fait me mettre en mouvement et avoir quitté en fait la fonction publique. On en parlera probablement. C'est vraiment avec une mission, c'est sauver des vies. Donc en fait, tous ceux qui travaillent dans Emarina, c'est notre leitmotiv, c'est sauver des vies. Même on les compte, les vies sauvées. C'est une innovation qui vient de la nature. On appelle ça la bio-inspiration ou le biomimétisme. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on a trouvé une molécule dans un ver marin par le hasard en fait de la recherche, et aujourd'hui cette molécule est au centre de plein de processus de la biologie, notamment de la vie, puisque c'est l'apport de l'oxygène. Je dis toujours qu'il y a deux choses en fait qui sont extrêmement importantes pour vivre. Un, manger, mais on peut sauter un repas. Par contre, sauter une inspiration, ça va faire très très mal. Et donc en fait, cette molécule est capable d'apporter de l'oxygène au niveau de la cellule, d'un tissu, d'un organisme d'un organisme dans sa totalité. Et donc ça veut dire que tous les processus physiologiques sont basés sur l'apport d'oxygène. Et donc c'est avec ça qu'on développe ces applications dans différents domaines thérapeutiques.
Oui, notamment les greffes, on va y revenir dans quelques instants. Ce petit ver marin, on le connaît tous, notamment ici en Bretagne, lorsqu'on arpente nos plages, il y a quelquefois des petits tortillons qui sont sur la plage à marée basse, c'est la présence de ce fameux ver. Et c'est cette observation que tu as faite à Roscoff, quand tu étais dans ce laboratoire de biologie marine à Roscoff, tu t'es dit, mais là, comment font-ils ces petits animaux, ces invertébrés, pour respirer à marée basse? C'était ça l'idée?
Exactement, c'était vraiment une question qui intéressait personne. D'ailleurs, au démarrage, on me disait, les chercheurs du CNRS n'ont pas autre chose à faire que de s'intéresser à la respiration de vers marins. Et moi, ce que j'ai voulu comprendre avec ce ver, puisque j'ai étudié des vers, en fait, à peu près dans le monde entier, notamment ceux qui vivent au fond des océans et au niveau des abysses. Mais en fait, ce ver-là, donc, il m'a intéressé parce qu'il était de l'autre côté de ma fenêtre à la station biologique de Roscoff. Il y avait plein de turricules. Alors, on appelle ça des tortillons ou des turricules. Et puis, en fait, finalement, la question que je me suis posée, c'est mais comment il est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? 6 heures, le temps de la marée. Et donc, ça a été juste comme ça une avance. Et puis, bien évidemment, j'avais quand même un peu des notions de physiologie respiratoire. Je me suis focalisé sur le sang et j'ai identifié cette molécule. Et donc, il faut savoir que ce ver, ça fait 450 millions d'années qu'il vit entre la marée haute et la marée basse.
Alors toi, tu dis il y a 450 millions d'années de recherche et de développement, oui, de R&D cumulé, c'est
bien
ça?
Bien sûr. Je pense que Emarina, dans le monde, ça doit être la société qui a le plus de recherche et de développement gratuit qu'on a trouvé sur la plage. Et donc, 450 millions d'années de recherche et de développement. Et donc, en fait, cette molécule a été identifiée, a été sélectionnée par l'évolution chez ce ver.
Avant de poursuivre peut-être sur les caractéristiques scientifiques, techniques, j'ai envie qu'on s'arrête un instant à ton histoire personnelle, parce que dans ce livre, Un trésor sous le sable, qui est paru aux éditions des Arènes en début janvier 2024, tu parles beaucoup de toi, de ton parcours, et de ton enfance. Et c'est très important, on dit parfois que tout remonte à l'enfance. Dans ton histoire, le petit Franck, qui n'est pas forcément un très bon élève à l'école, il a un modèle avec un bonnet rouge.
C'est ça, oui, le modèle, mon modèle, moi, c'était le commandant Cousteau. Alors, il m'a fait rêver quand j'étais gamin, je regardais les émissions du commandant Cousteau, la Calypso, naviguer sur les océans. Puis tu sais Xavier, en fait, c'était les premières images en fait du monde sous-marin, du monde du silence, comme on l'appelait, qui n'est pas du tout silencieux, mais c'était les premières images. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je deviendrais biologiste marin. Et puis au fait, finalement, sur mon parcours de vie, j'ai eu la chance de le côtoyer, d'échanger avec lui. Et je me souviens, c'était à l'Institut océanographique à Paris, rue Saint-Jacques. Il faisait une présentation de son film sur le Danube, les grands fleuves.
Et toi, tu étais allé, évidemment.
Moi, j'y suis allé, bien sûr. Je savais que j'allais le voir. Et puis en fait, c'était donc l'amphithéâtre était blindé. Et donc, je m'assois pas très loin. Et puis à la fin de sa présentation, je vais le voir. Un peu vraiment
intimidé.
Beaucoup intimidé. Et je pose une question naïve.
Tu as quel âge là? Tu as une vingtaine d'années?
Moins que ça, en fait. J'étais ado, en fait. Et puis je lui dis, commandant, comment on fait pour être commandant Cousteau? Je ne savais pas trop quoi lui dire. Et alors il sourit un petit peu. Et puis il me dit, écoutez, jeune homme, vous êtes à Paris. Derrière, il y a une université qui s'appelle Sorbonne Université. Alors ça s'appelait Jussieu ou Pierre-Marie Curie. Là-bas, vous pourriez faire de la biologie marine. Il y a un DEA. Et puis peut-être que si vous êtes bon, vous ferez une thèse. Et puis peut-être que vous partirez en postdoc. Et puis peut-être que vous rentrerez au CNRS. Et puis peut-être que vous naviguerez sur les océans. Et en fait, pour moi, tous ces peut-être, c'est devenu en fait ma feuille de route. J'ai coché toutes les cases pour devenir biologiste marin.
Ce qui n'allait pas de soi au départ, parce que le bulletin de notes de l'élève Franck Zahle n'était pas forcément extraordinaire.
Non, pas du tout, oui. Alors ça, c'est aussi important, c'est ce que j'apprends, en fait. Et puis j'aide beaucoup de jeunes en ce moment, depuis pas mal de temps. Mais en fait, vous savez, on ne choisit pas dans la famille dans laquelle on est. Donc moi, ma famille, personne n'avait fait des études. Et en fait, vous savez, vous reproduisez souvent le modèle social de votre famille. Et si vous n'avez pas les codes pour aller décoder qu'est-ce qu'on attend de vous, bah vous reproduisez ce qu'il y a dans votre environnement social. Et donc, j'avais pas les codes. Donc, moi, je savais pas qu'il fallait répéter comme un perroquet ce qu'on nous racontait pas dans les cours, etc. Et donc, j'ai fait un peu mon parcours tout seul en apprenant comme une éponge.
C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la rencontre avec le commandant Cousteau.
Oui,
alors, il y en a eu d'autres.
Alors,
le déclic,
oui, parce que j'étais vraiment très, très intéressé depuis très tôt. Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais par la biologie. Et puis, il y avait une prof, donc j'adorais, une prof de sciences naturelles. Donc, j'étais au collège. Et donc j'apprenais bien ces cours, mais j'apprenais aussi pas mal de choses sur des bouquins, sur des revues que j'arrivais à collecter, donc pour la science, la recherche, etc. Et un jour, en fait, je fais, on appelait ça une interro, et finalement j'ai zéro. Alors j'ai zéro, mais avec la réponse qui était celle, la suivante, c'est vos réponses sont bonnes, mais en dehors de vos connaissances.
Ça c'est dans le bouquin, hein.
Oui.
Et on va retrouver ça un petit peu en fil rouge du parcours.
C'est ça. Et donc je trouvais ça tellement injuste, mais j'ai appris en fait par ce zéro que pour être un bon élève à l'école et dans l'éducation nationale, il faut être un bon perroquet et répéter en fait ce qu'on nous enseigne. Mais finalement, en fait, ça c'est important parce que c'était un code que je n'avais pas. Et finalement, je me suis toujours dit qu'un jour, je ferai de la biologie. En tout cas, c'est moi qui écrirai les prochains chapitres de sciences et de médecine. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec cette découverte et c'est ce que j'ai fait avec ce bouquin.
Il y a eu aussi la possibilité pour toi de suivre un petit peu les traces du commandant Cousteau en embarquant, en allant faire de l'expédition, de la recherche, j'allais dire, in situ. C'est pas donné à tout le monde. Comment
tu
t'y es pris ?
Non, c'est ça. Alors, encore une fois, en fait, en prenant ma chance quand elle se présentait. Tu sais, Xavier, il y a un truc que je dis toujours, c'est qu'on ne choisit pas son destin, mais on choisit les chemins qui y mènent. Et en fait, quand j'étais au service militaire, donc bien évidemment, le service militaire, alors je l'ai fait, hein, donc j'ai trouvé un monde un peu particulier, mais je l'ai fait. Et puis, je ne voulais pas lâcher mes études. Donc, je me suis retrouvé un jour, en fait, donc je voulais faire une maîtrise, une deuxième maîtrise. Et puis, je me suis retrouvé dans un couloir où je longeais les murs. J'ai vu une petite annonce, cherche étudiant pour aller embarquer sur un bateau océanographique au large des Galapagos. Mon rêve était sur la petite affichette du couloir et je me suis dit, c'est pour moi. Et donc,
aussi, il a fallu se battre. Hein. C'était pas
il
évident.
A fallu se battre parce que j'étais militaire, donc je devais embarquer potentiellement sur un bateau militaire. Et donc, je me suis battu pour avoir en fait l'autorisation d'embarquer avec une personne avec qui j'ai beaucoup d'estime, qui est mon mentor, qui s'appelle le professeur Toulmont, qui m'a donné ma chance. Et d'ailleurs, quasiment 38 ans après, on a toujours le contact et on échange régulièrement.
Et donc tu t'épanouis jusqu'à se dire finalement je vais emprunter une voie classique sur la recherche en France, je vais devenir chercheur d'État, rentrer dans le sein des saints, le CNRS, hein, voilà, et tu vas avoir une expérience, tu en parles avec... moi je l'ai lu comme ça, peut-être que je l'ai mal lu, avec une part d'amertume dans la manière dont ça s'est passé. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur cette réalité de la recherche, entre guillemets, à la française, qui a quand même quelques inconvénients à tes yeux?
Oui, bien sûr, en fait. Alors, bien sûr, il y a des inconvénients, mais il y a bien sûr des avantages. L'avantage, c'est que, en fait, vous êtes complètement libre de développer votre recherche. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire que vous arrivez, en fait, moi, quand je suis arrivé, en fait, pour prendre mon poste, j'avais même pas de bureau, j'avais même pas de table, j'avais même pas d'ordinateur.
C'était à Roscoff?
J'étais à Roscoff, donc il fallait que j'aille poncer, en fait, une table que j'ai trouvée dans un garage. Il fallait que je fasse une grande pour acheter mon premier ordinateur. Et puis, je me suis rendu très vite compte que finalement, la recherche était complètement démunie. Démunie pour avancer. On appelait ça le soutien de base. Donc, c'était le minimum que l'État donnait pour travailler. Ça devait être à peu près 1 500 € par chercheur et par an.
Donc, ah oui, et le « et par an » est important.
Et par an. Et donc, à un moment donné, il fallait que vous cherchiez d'autres subsides. Et donc, j'ai commencé à écrire des grants, etc. etc. Et donc, je me suis épanoui.
Écrire des grants, ça veut dire aller chercher des
subventions.
Donc,
hein. À la région Bretagne, à l'Europe. Je déposais des projets pour financer mon labo. Et en fait, je me suis épanoui dans ce côté-là, mais frustré parce que je ne pouvais plus faire de la recherche. Donc, je le faisais à travers d'étudiants que j'encadrais.
Et déjà, à l'époque, le petit vert, l'arrêt Nicole Marin, il était au cœur de la recherche ou c'est venu après?
Alors, c'est venu après. Au démarrage, en fait, je travaillais sur des vers qu'on trouvait au fond des abysses, des vers géants, donc qu'on appelle Riftia pachyptyla. C'est des vers qui font 3 mètres de haut.
Ah, quand même.
Et qui ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de bouche, pas de tube digestif et pas d'anus. Et ils vivent, en fait, par chimiosynthèse. Ils utilisent le soufre, donc produit par la croûte terrestre, dans des processus de chimiosynthèse avec des bactéries sulfo-oxydantes. Et donc moi, je me suis intéressé en fait à comprendre comment tout ce mécanisme fonctionnait. Déjà en travaillant sur les hémoglobines de ces vers marins, mais j'étais assez frustré parce qu'en fait, ces vers, on les étudiait uniquement quand on était à bord de bateaux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la physiologie, donc travailler sur le vivant. Mais quand je revenais à Roscoff, il fallait que je congèle mon matériel biologique et je faisais plus de la biologie, la physiologie à Roscoff. Donc j'ai dû trouver un autre modèle qui était l'arrêt Nicole.
Voilà, et là ça va être le début d'une aventure formidable qui va conduire à la création de la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et Marina, parce qu'à un moment et même assez rapidement tu t'es rendu compte, Franck, qu'il n'était plus possible de travailler sur ce sujet dans le cadre du CNRS si tu voulais lui donner les moyens de développement d'une entreprise concurrentielle.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le CNRS c'est de la recherche fondamentale. Le travail d'un chercheur en fait dans ces centres académiques, ça s'arrête à la publication, c'est-à-dire que en fait on fait évoluer la connaissance est rendue publique à travers des publications scientifiques, mais en fait, ça va rarement plus loin.
Donc, on compte sur d'autres acteurs privés, souvent, pour prendre le
relais. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand j'ai fait cette découverte, on m'a dit, écoute, toi, tu es chercheur, tu restes dans ton labo, s'il y a quelque chose d'intéressant, on le donnera à un industriel. Et là, j'ai senti la graine de la frustration pousser en moi en me disant mais c'est quoi ce monde où on n'a pas le droit d'y aller? Et donc, je me suis dit j'allais le faire. Et donc, en 2007, alors que j'ai rêvé, franchement, je suis tellement reconnaissant d'être rentré au CNRS, j'étais obligé de démissionner pour amener cette molécule en fait, au lit des patients.
Alors, on va y venir sur justement tout le parcours de cette découverte. C'est là que tu deviens véritablement entrepreneur. Donc, tu crées ta société sans grands moyens.
Hein, aucun.
Et ça démarre dans un scepticisme un peu poli quand même au départ. Hein.
Ah oui, bien sûr. En fait, alors, c'était assez difficile parce que, encore une fois, donc, on m'accusait de trahir mon domaine scientifique. Vous savez que, en fait, en science, on a l'impression qu'il y a le monde de la recherche qui est la bonne recherche avec les chercheurs en blouse blanche.
Il y a la vertu d'un côté et puis,
De l'autre côté, quand on passe de l'autre côté du mur, j'appelle ça le mur de Berlin, on est du côté de la corruption, de l'argent où tout est possible, etc., etc. J'ai jamais compris ça, puisque pour moi, ça devrait être naturel. Il devrait y avoir des allers-retours dans les deux sens. Et en fait, on dit que j'ai trahi mon domaine. On me fait passer.
Très dur,
mais en fait, intérieurement, je savais où je voulais aller. Donc, ça m'a pas plus touché que ça. Sauf que quand on a commencé à m'amener en procès, quasiment des procès d'intention, on m'accusait d'avoir falsifié des données pour pouvoir arriver en fait, à ces résultats-là. Je me suis retrouvé comme un procès d'inquisition. Il fallait que j'avoue que je n'avais pas trouvé. Et donc ça a été pénible parce que, pas que pour moi, j'étais marié, j'avais des enfants. Et donc en fait, toute ma famille a subi ça.
La famille, elle est très importante dans ton parcours. Tu as des pages très belles, j'ai trouvé, sur ton épouse, sur les enfants aussi. qui vous accompagne. Et c'est un équilibre personnel. On ne peut pas dissocier le chercheur de l'homme. C'est un tout.
Non. En fait, souvent, on me dit, qu'est-ce qui fait réussir en fait, un chemin entrepreneurial? Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la famille. C'est tellement dur qu'à un moment donné, il faut vouloir se ressourcer vis-à-vis de sa famille, son épouse, ses enfants, etc. Mes enfants et mon épouse, alors maintenant qui travaillent avec moi en fait dans l'entreprise,
Elisabeth,
ils ont respiré, vécu 24 heures sur 24. Et Marina, mon grand a 22 ans, ça fait quasiment toute l'aventure des Marinas. Donc il faut avoir un socle extrêmement stable. Je pense que la vie d'entrepreneur est tellement dure que s'il y a un grain de sable quelque part, ça vous fait dévier en fait du chemin. Et donc oui, ma famille est extrêmement importante dans l'histoire des Marinas. Oui.
Et ce qui est aussi très important, et tu l'as dit d'emblée au début de notre entretien, Franck, tu as dit la vocation, la raison d'être des Marinas, c'est de sauver des vies. Et on a plaisir à les rencontrer, ces vies sauvées. Il y a aussi dans cet ouvrage, un trésor sous le sable, des pages très, très émouvantes, on peut le dire, sur la rencontre, ça démarre d'ailleurs comme ça, avec un patient qui a bénéficié d'une greffe première mondiale, et puis il est là, et puis tu le rencontres.
Oui, c'était aussi un moment assez exceptionnel sur un parcours de vie. Donc un coup de téléphone d'un grand médecin, d'un grand chirurgien, je pense un des plus grands en fait dans son domaine, qui est le professeur Lantieri, qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Zal, j'ai lu tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait d'un point de vue scientifique, il me faut votre molécule pour une première mondiale ». Je suis un peu sonné quand j'entends ça, et puis il m'explique en fait qu'il a un patient qui a eu une première greffe de face, qu'il a rejetée, qui est en attente d'une seconde greffe que personne n'a fait dans le monde, et qu'il avait besoin de la molécule pour avoir plus de temps, aller chercher une phase beaucoup plus loin que Paris intramuros. Et donc il y a cette discussion un peu improbable, en lui disant écoutez monsieur Lantieri, vous êtes gentil, mais moi je peux pas, là on est en train de faire des essais sur la transplantation rénale. Et il me dit écoutez, ça c'est mon problème, je vais m'occuper d'avoir les autorisations, de toute façon si on fait pas ça, il meurt. Et donc il fait sa transplantation, on échange, et puis en fait, je rencontre Jérôme, ici, à ta place, Xavier. Et puis je vois...
Jérôme, c'est la personne qui avait...
Jérôme, alors il s'appelle Jérôme Hamon, en fait. Donc il est là avec sa maman dans mon bureau, je le vois et je pleure. Parce que je me suis dit, on voit ce qu'on a fait devant ses yeux. Et j'ai pas pu retenir mes larmes.
Le professeur Lantieri, qui a cette phrase qui figure sur la quatrième de couverture du bouquin, une découverte équivalente à la pénicilline lorsqu'il parle de la découverte des Marinas. Hein, c'est donc cette avancée qui permet très simplement et j'allais dire très magnifiquement de sauver des vies. Et alors cette première émotion de la rencontre avec un bénéficiaire de cette innovation, une innovation de rupture comme on dit, elle s'est reproduite. Il y a eu d'autres rencontres par la suite, d'autres émotions toujours aussi fortes.
Ah oui, bien sûr. En fait, un jour j'apprends aussi que le papa d'un des amis de mes fils en fait a bénéficié de la techno, et donc qui est à Morlaix, qui est à côté de moi. Je lui dis, même à côté de chez nous, en fait, dans notre vie quotidienne, ça peut changer la vie de personnes. Ce papa, il était alité, il ne pouvait plus faire du sport avec son fils. Et puis, mon fils me dit, si, maintenant, on refait du foot avec lui. Donc, voilà, ça change vraiment, en fait, la vie des gens. Et puis, il y a eu, en fait, aussi ces médecins, en fait, qui m'ont appelé d'Inde, donc à l'autre bout du monde, qui me disent, on a entendu parler de vous, on veut votre produit pour greffer des deux avant-bras à un patient. Donc, voilà, c'est des choses qui nous dépassent, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ces travaux, cette science n'est plus à moi, en fait. Je pense qu'elle a diffusé dans le domaine médical. Et quand le professeur Lantieri dit c'est aussi important que la pénicilline, c'est pas de l'arrogance, et puis c'est pas de la gloriole, etc. Vous savez, Fleming, quand il a trouvé la pénicilline, donc il a mis 20 ans avant de dire qu'il avait fait quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on lui disait, monsieur
Fleming, ça marchera jamais.
Un champignon, ça va sauver des vies. Un simple champignon, ça va sauver des vies. Mais vous êtes fou, monsieur Fleming. Comme on m'a dit, monsieur, vous êtes fou, monsieur Zal, vous allez sauver des vies avec un ver marin. C'est une molécule naturelle, comme la molécule M101 qu'on développe dans les Marinas.
Alors, cette fameuse molécule M101, c'est son nom de code, ou ça, plutôt sa référence scientifique, elle a mis quand même du temps à s'imposer dans le monde médical. Il a fallu franchir de très nombreux obstacles, notamment en termes d'homologation, de reconnaissance par le monde scientifique et académique pour autoriser son utilisation. Ça a été même parfois très désespérant, j'imagine, d'avoir ce produit sous les yeux et sous la main, et pas d'avoir l'autorisation de s'en servir. Ce que disait le professeur Lantieri quand dire, écoutez, tant pis, moi j'en fais mon affaire. Il avait été un peu pionnier lui aussi.
Oui, ça a été bien travaillé par un philosophe qui s'appelle Schopenhauer, qui disait en fait qu'une innovation de rupture met à peu près 20-25 ans avant d'arriver. Et donc elle passe par trois phases. La première phase, donc, c'est les gens sont sceptiques. Donc on vous dit, mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un avec un ver marin. Donc ça va durer 5-6 ans. Si on ne vous dit pas d'autre chose que M. Zal est un imbécile. Donc, mais ça va durer 5-6 ans. Donc il faut tenir. Donc dans votre, vous dites bah, je suis pas un imbécile, j'avance. Et puis après en fait on vous dit non mais c'est super dangereux. Donc ça c'est les autorités réglementaires, l'Agence nationale de sécurité du médicament qui va dire mais vous vous rendez compte, Monsieur Zal va transfuser de l'hémoglobine d'arinicol, vous allez voir, on va tous s'enterrer sur la plage dans le sable parce qu'il va nous transfuser cette molécule là. Et donc ça dure pareil.
Là on joue sur les mots hein, évidemment, on va y venir.
Oui, mais en fait on joue sur les mots, mais en fait voilà, donc c'est dangereux. Et puis maintenant les gens ils me disent mais Monsieur Zal j'y avais pensé avant vous. Et donc tout ça c'est un parcours qui va durer 25 ans, même plus, les vaccins ARN messager 38 ans. 38 ans pour savoir que l'ARN messager pouvait faire des vaccins. Donc en fait, toutes ces innovations de rupture, il faut tenir.
Alors, il y a, je le disais au début de notre entretien, une actualité plutôt riche pour toi, Franck, en ce début d'année. En décembre, le 14 décembre, je crois, très précisément, tu as reçu à Paris le prestigieux prix Galien. Alors, il n'est pas forcément très connu du grand public et de celles et ceux qui nous écoutent. On va préciser l'importance que ce prix a au sein de la communauté scientifique. C'est une forme de reconnaissance pour les travaux que tu as menés.
Alors oui, le prix Galien, c'est l'un des prix les plus prestigieux en fait, du monde pharmaceutique. En fait, on le considère comme le Nobel de la pharmacie. Et donc, il nous a été remis le 14 pour nos développements, donc à côté de grands laboratoires. Je suis heureux, en fait, d'avoir reçu ce prix à côté de Sanofi, à côté de Gilead, à côté de Pierre Fabre, et j'en passe. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le monde médical a reconnu notre innovation majeure. Alors, encore une fois...
Ça va ouvrir des portes.
Alors, je ne sais pas si ça va ouvrir des portes. En tout cas, c'est un prix prestigieux que tout le monde attend sur son parcours de vie. Nous, on l'a eu, et en fait, ce prix, on l'a dédié, en fait, à tous ceux qui nous ont aidés, en fait, pour en arriver là. Oui, c'est vraiment une... Je crois que c'est le prix le plus prestigieux qu'on peut recevoir quand on fait des développements en fait, pharmaceutiques.
C'est une forme de reconnaissance de la communauté scientifique et des pairs aussi.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est vraiment des pairs, un jury extérieur qui a jugé je ne sais pas combien de dossiers en fait, pour nous l'attribuer. Et c'était un grand moment. Un grand moment.
Oui, on voit l'émotion encore dans tes yeux quand tu en parles.
Oui, c'était un grand moment. Oui.
Ouais. Il y avait la famille aussi était là.
Alors il y avait de la famille, il y avait Elisabeth qui a reçu le prix avec moi parce que vous savez moi je bien sûr j'ai trouvé ce verre sur la plage etc, mais encore une fois Elisabeth a aussi eu pas mal de développements, les pansements on en parlera probablement, tous les développements dans son domaine d'application qui sont en fait M Dental Care pour les maladies parodontales, c'est elle qui a pensé à développer tout ça.
Oui parce qu'elle est dentiste au départ.
Oui Elisabeth est dentiste en fait, elle est chirurgien dentiste et spécialisée en fait dans l'implantologie et donc avec plein de problèmes en fait qu'elle voyait au niveau buccal, la sphère buccale, et en fait elle a pensé à utiliser cette molécule dans des formulations que j'aurais pas forcément pensé. Et donc elle a développé ça, donc c'est pour ça que je dis que tout ça c'est une histoire de famille en fait.
Et qui est donc mise à l'honneur à travers ce prix Galien. Une question, j'allais dire une question de journaliste, c'est un prix qui est doté financièrement
non,
ou c'est
non,
juste
non,
une reconnaissance
on a une belle médaille, très grosse médaille avec un beau diplôme etc, mais c'est surtout toute la communication qui est autour, en fait, qui est extrêmement importante.
Alors, aujourd'hui, on est ici à Morlaix, qui est le siège social des Marinas. J'ai pu, grâce à toi, tout à l'heure, visiter les différents laboratoires qui composent l'entreprise, une quarantaine de personnes à peu près s'y activent, dans des conditions, je l'ai vu aussi, de sécurité. On est dans des atmosphères contrôlées, les portes sont bien verrouillées. On sent, quand on rentre ici, que la question justement de la confidentialité est prise très au sérieux. Il y a des raisons peut-être pour ça.
Oui, en fait, alors ici vous êtes rentré, mais on a checké votre identité avant de rentrer, donc tout simplement parce que vous êtes dans une zone à régime restrictif, donc la société, en fait, est sous la surveillance de la DGSI, en fait, parce que, en fait, la DGSI protège les entreprises qui
ont... La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est ça.
Donc protège ces entreprises qui ont, en fait, de la connaissance, des brevets, etc., etc., donc on s'est mis sous la tutelle, en fait, de cette surveillance pour nous protéger. Et bien sûr, oui, parce qu'en fait, on a eu des périodes, à un moment donné, d'espionnage, de fuite d'informations, etc.
Donc, oui, il y a un côté roman noir, polar, quand même, quand on te lit dans cet ouvrage Un trésor sous la plage. À un moment, on se dit, on va en faire un film, c'est Hollywood.
Oui, c'est ça. Il y en a qui disent qu'en fait, chaque chapitre pourrait être un épisode, mais c'est un peu ça, en fait.
Les droits vont bientôt être vendus à Netflix, c'est ça.
C'est ça. Voilà. En fait, c'est une épopée, en fait, parce que c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui dure depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc voilà, il y a eu cet épisode espionnage, lettre de dénonciation anonyme, dénigrement, voilà. Tout ça, on l'a vécu, oui.
Mmh. On a su d'où ça venait
Alors, oui.
Alors, oui et non. Hein.
Oui et non, en fait. Alors, on a su, en fait, on a trouvé des échanges de mails sur des personnes que l'on a identifiées. Il y a eu des plaintes qui sont déposées. Il y a une instruction qui est en cours. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi.
À qui profite le crime, comme on dit dans les mauvais romans de gare.
C'est ça.
Ouais. Parce qu'il y a aussi des luttes d'influence. Il y a des questions d'ego qui sont fortes.
Oui, bien sûr. Oui,
mais il y a des enjeux économiques et industriels.
Bien sûr, parce que en fait, Emarina aujourd'hui est considérée. Alors, encore une fois, c'est pas du tout de la gloriole. Et puis, en fait, quand on dit ça, en fait, des fois, ça me fait sourire. Mais comme une licorne, en fait.
Valorisable à plus d'un milliard d'euros.
Oui, c'est ça, en fait. Mais vous imaginez, en fait, vous avez compris le problème, c'est quand vous savez que dans le monde, il manque 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Vous voyez très bien l'ampleur de la technologie. Vous, Xavier, en fait, vous avez 5 litres, ou tu as 5 litres de sang dans tes veines et tes artères. C'est la protéine la plus importante du corps humain, de tous les vertébrés. Et on sait très bien que si on manque de sang, on va tomber en anémie ou en ischémie, etc. Et donc, on sait que c'est la protéine de la vie, en fait.
Alors, peut-être qu'à ce stade-là, les plus scientifiques de celles et ceux qui nous écoutent ont envie d'avoir une précision. Tu as dit tout à l'heure que c'était un vecteur d'oxygène, cette hémoglobine du ver marin. En aucun cas, nous les humains, transfusés avec cette matière. Il faut bien peut-être remettre les points sur les i là-dessus.
Oui, alors, en fait, ça m'a valu pas mal d'inimitié au démarrage, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils appellent ça « blood substitute ». Et donc, en bon français, j'ai traduit « substitut sanguin ». En fait, ce n'est pas un substitut sanguin, puisque dans le sang, il n'y a pas que des globules rouges. Il y a des globules blancs, des plaquettes, des facteurs de coagulation, des hormones, etc. etc. En fait, cette molécule ne fait que transporter de l'oxygène. Donc, ce n'est pas du sang. C'est un transporteur d'oxygène. Et c'est vrai qu'au démarrage, j'ai usé et abusé en fait, de blood substitut sanguin, et ça m'est revenu comme un boomerang dans la figure.
Alors que là, non, on est avec un produit qui peut permettre justement de conserver des tissus en dehors du corps humain, par exemple, dans le cas d'une transportation.
C'est exactement ça. C'est, en fait, ça me fait penser, ce que tu me dis, Xavier, à un coup de téléphone que j'ai eu avec un prix Nobel de médecine qui s'appelle Peter Radcliffe, qui m'a appelé, en fait, on était pendant le Covid, et qui m'appelle, Monsieur Zal, donc bien évidemment en anglais, tout ça. Il me dit, Monsieur Zal, moi j'ai eu le prix Nobel donc de médecine en 2019. Il me dit, parce que j'avais fait une découverte qui s'appelait IF1, son hypoxie inductique factor. Et donc, en fait, grosso modo, c'est un facteur qu'on a à l'intérieur qui va déduire le niveau d'hypoxie, le manque d'oxygène, et qui va synthétiser des globules rouges en face. Et il me dit, moi j'ai eu ça, mais vous l'utilisez, donc j'ai envie de bosser avec vous. C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, on a une fonction, c'est d'apporter de l'oxygène en fait aux cellules, et quand on a compris que n'importe quelle cellule de notre corps, cheveux, peau, a besoin de détecter le niveau d'oxygène, on peut dire que ce que l'on a trouvé, c'est universel. C'est un facteur universel à la vie, et donc avec ça, on peut aller oxygéner des cellules, des tissus, des organes ou des organismes. Et donc, on n'est pas dans une molécule thérapeutique qui va aller trouver une cellule cancéreuse quelque part dans un coin. Nous, c'est la vie.
Ça marche pour l'énergie. Pour tout le monde.
En fait, Xavier, c'est comme l'essence que tu mets dans ta voiture. Si tu n'as plus d'essence, tu vas tomber en panne. Mm-hmm. Si tu n'as plus d'oxygène, tu ne vas pas vivre longtemps. Et donc, en fait,
quelle que soit la station à laquelle je m'arrête, j'ai de l'essence et ça roule.
Exactement ça. Exactement ça. Et alors, pour compléter, parce que c'est important, puisque tu parlais de gens qui voulaient en savoir plus, c'est que, en fait, chaque cellule de notre corps a besoin de produire de l'énergie. Et ça s'appelle de l'ATP. Donc,
Avec le classement de tennis.
Non,
ça n'a
rien à voir. C'est de l'adénosine triphosphate. C'est de l'énergie. C'est ce qui va faire tourner les cellules. Et donc, pour faire cette énergie, on a besoin d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ATP. Et donc, en fait, les cellules meurent. Et donc, en fait, on a déterminé un processus universel dans la vie.
Alors on voit bien la formidable portée de cette découverte, de cette innovation. Mais la question qui vient immédiatement derrière, c'est une fois qu'on l'a trouvée, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, comment on passe à l'échelle? Comment on l'industrialise? Et là, ça devient évidemment plus compliqué. Il y a tout un parcours aussi de combattants, parce que les petits vers qui sont dans la plage, on ne va pas aller tous les matins entre deux marées les récolter.
Non, non, bien sûr. Et puis en fait, ça a été aussi dès le démarrage. Et puis je crois que le plus dur du boulot, c'est-à-dire que moi, j'étais biologiste, je n'allais pas défauner toutes les plages de la Bretagne. Et donc, ces vers, ils sont extrêmement importants dans l'environnement. C'est ce qui sert, en fait.
Ce sont des régulateurs d'écosystèmes.
On appelle ça des organismes qui servent à la bioturbation. C'est-à-dire que généralement, en fait, ces vers, quand vous les voyez sur la plage, les plages sont super nickel parce que, en fait, ça métabolise, en fait, la matière organique des plages. Et donc, vous voyez ces petits tortillons, en fait. Donc, ce ver va manger, on appelle ça un ver psamivore. Il mange du sable, mais il ne se nourrit pas de silice. Il prend la matière organique autour de la silice et qui va relâcher le sable. Et donc, bien évidemment, comme il n'était pas question que j'aille défauner toutes les plages de Bretagne, j'ai dû trouver un moyen industriel de produire ces vers. Donc je me suis lancé en fait dans l'aquaculture. Donc j'ai acheté une ferme à Noirmoutier, donc pour ceux qui connaissent à l'Épine, qui produit de la rainicole en fait en aquaculture sans aller prendre un ver sur la plage.
C'est long de les faire se reproduire.
Alors déjà, il a fallu trouver comment ça marchait. C'est-à-dire que dans la nature, ça se reproduit qu'une fois par an. Et donc quand voulez-vous,
faut pas rater le coche.
Il faut pas rater le coche. C'est au mois d'octobre-novembre. Et donc ça veut dire que si vous voulez avoir de la matière première régulièrement, vous pouvez pas compter sur ça. Donc on a travaillé en fait sur le cycle de reproduction de ces vers. Aujourd'hui, on maîtrise le cycle de reproduction de ces
vers. Là aussi, j'imagine qu'il y a des brevets, Marina.
Alors, c'est
du vivant.
C'est pas ça. C'est que on a déposé 63 brevets, mais il y a deux choses où j'ai pas voulu breveter. J'ai voulu garder le secret. C'est le cycle de reproduction de ces vers. Donc c'est un secret d'entreprise. Et l'extraction de ces molécules. Donc en fait, tout l'amont de la technologie des marinas n'est pas breveté, elle est secrète. Et donc ça veut dire que demain, si un brevet des marinas tombe dans le domaine public, de toute façon, on ne saura pas faire les molécules. Donc j'ai voulu garder ça secret. Et aujourd'hui, en fait, cette ferme est en capacité, donc elle fait 13 hectares, elle est en capacité de faire 30 tonnes à l'année en fait, d'arénicole.
30 tonnes à l'année, c'est évidemment pas à la hauteur des besoins mondiaux mais c'est un bon début.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ce ver, il est extrêmement concentré en hémoglobine. C'est-à-dire que juste pour vous donner une idée de chiffre, avec 750 kg de verre, je suis capable de transplanter toute la liste d'attente des Français en préservation de greffons.
Et 750 kg, ça fait quand même un petit paquet de verre.
Ça fait un petit paquet, on est capable d'en faire 30 tonnes.
On est capable d'en faire 30 tonnes.
Donc on peut voir les choses venir.
Mmh. Alors cette usine, c'est une usine, je ne sais pas comment on l'appelle.
C'est une ferme aquacole.
Une ferme aquacole, c'est mieux de le dire ainsi. Se trouve donc à Noirmoutier. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu un débat ici en Bretagne pour dire mais finalement, Franck Zahl, il n'est plus breton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la région? Parce qu'on aurait pu penser que ça se passe ici.
Ah oui, mais j'aurais rêvé de le faire en Bretagne. Mais en fait, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est en France. Et donc en fait, moi j'ai fait le tour de la Bretagne, j'ai trouver des sites et à chaque fois c'était oui c'est très bien mais pas à côté de chez moi, etc. Après, quand vous voulez créer une ferme aquacole de novo, il faut savoir qu'il y a une superposition de lois. Loi Natura 2000, zone humide, espace littoral, etc., etc. Donc, si vous voulez, de novo, créer une ferme aquacole sur un littoral, vous en prenez pour 10 ans.
De novo, ça veut dire
scratch. Mm-hmm. Donc, au moins 10 ans d'études, etc., puis avec des recours, etc.
Et
donc,
là, il fallait aller vite.
Alors, il fallait aller vite, il fallait que je produise des vers. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité qu'il y avait une ferme qui était à vendre à Noirmoutier. Donc, cette ferme, en fait, elle produisait des turbos label rouge. Donc, je dis toujours, quand j'ai acheté cette ferme, j'ai acheté 100 tonnes de turbos label rouge. J'en ai mangé quelques-uns, mais j'en ai vendu beaucoup. Et aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus de turbo et on ne fait que des verres. Mais juste pour la petite histoire, pour vous dire la difficulté de tout ça, c'est que une fois, j'avais trouvé un terrain qui était à Crozon, donc à Roscanvel, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et donc, je voulais créer ma ferme là-bas. Donc, j'avais fait les plans, les propriétaires étaient d'accord pour vendre. Je vais en mairie, donc de Crozon, avec le sous-préfet de Châteaulin qui était à côté de moi. Je présente mon projet, donc j'avais fait plein de dessins, plein de beaux tableaux, etc. Et puis je présente, puis il y a quelqu'un au fond de la salle qui me dit « Il lève le doigt. Non, monsieur Zahl, ça ne se fera pas. Ben, » vous pouvez vous exprimer, monsieur. « Oui, ça ne se fera pas parce que j'ai vu des traces de loutre sur le terrain que vous voulez acheter. » Ok, monsieur, mais la loutre, elle faisait peut-être que passer. Elle habite peut-être pas là, mais monsieur, c'est une espèce protégée. Et j'avais le sous-préfet de Châteaulin qui me soufflait, lui, on le connaît, vous allez vous en prendre pour 10 ans de procédure. Et donc, vous voyez, en fait, même avec des bonnes initiatives, en fait, il y a tellement de complexification, en fait, des systèmes. Et vous avez entendu hier le président de la République en parler lors de sa conférence de presse, des recours dans tous les sens. Et donc, à un moment donné, vous avancez pas, quoi. Et donc, moi, j'aurais rêvé d'avoir cette ferme en Bretagne. Sauf que, à un moment donné, la réalité...
Il y aura d'autres fermes en France ou cette unité de production?
Il y aura d'autres fermes en France ou ailleurs, mais c'est sûr qu'il y aura d'autres fermes.
D'accord. Et en Bretagne, peut-être pas, du coup?
Peut-être, peut-être pas. En fait, ça dépend si la législation bouge là-dessus, en fait.
Il y a un point qu'on n'a pas abordé en détail et je pense que c'est pourtant important d'y revenir, c'est la diversité aujourd'hui des applications de la molécule et de la recherche mise au point à partir de ce produit. Parce qu'on a, on en a parlé en tête, le transport des greffons pour les greffes, mais il y a d'autres applications tout à fait innovantes et intéressantes également.
Oui, tout à fait. Alors, quand je vais décrire les applications, on va dire, mais quelle est la relation entre une transplantation d'organes et puis en fait soigner un grand brûlé. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la vie, je vous l'ai répété plusieurs fois, est basée sur l'oxygène. Et donc, on a développé donc, des solutions de préservation de greffons, donc un produit qui s'appelle Hemodolife, mais en fait, des pansements cicatrisants, notamment pour les plaies hypoxiques, les grands brûlés, etc. Et donc, on formule cette molécule dans des gels qui permettent de cicatriser beaucoup plus rapidement que des pansements classiques. Donc, c'est vraiment une innovation de rupture qu'on a développée récemment, qui a sauvé un grand brûlé qui était brûlé à plus de 85%.
C'était à l'hôpital de Nantes.
Au CHU de Nantes, oui. Et puis, en fait, on fait des produits pour les maladies parodontales ou les périimplantites. Donc ça, c'est lié à des bactéries anaérobies que vous avez dans la bouche et qui vont déchausser vos dents si vous ne faites rien. Et puis, en fait, toutes les applications sur l'utilisation de cette molécule contre des maladies ischémiques, notamment l'infarctus du myocarde. Là, on avance avec l'Institut Imagine Anecker sur la drépanocytose, sur l'AVC. En fait, tout ça, c'est des maladies qui vont... Alors, ça va être déclenché par le manque d'oxygénation. Et donc, dû à la caractéristique de cette molécule, qui est une molécule qui peut lier beaucoup plus d'oxygène et qui est beaucoup plus petite qu'un globule rouge, elle peut aller efficacement aller délivrer cet oxygène. Et donc, énormément d'applications. Donc, nous, on a défini plus d'une vingtaine d'applications déjà connues, puis dans la sphère aussi.
Il y en aura d'autres
parce que finalement, la vie est encore une fois centrée sur l'oxygénation.
Alors, quand on parle d'un projet qui est né d'une innovation, d'une découverte scientifique majeure, et que derrière, pas à pas, on l'a compris, dans la durée, se construit une entreprise avec ses équipes, ses services, on se dit qu'on est encore au début de l'aventure. On parlait de la licorne, la valorisée à plus d'un milliard d'euros. Aujourd'hui, on en est encore loin.
Bien sûr.
40 personnes à peu près. Mmh. Une rentabilité qui, un seuil qui est
commence,
atteint ou qui
commence tout juste
en 2024.
Ouais. Alors juste pour vous dire, en fait, il a fallu quand même 16 ans pour avoir une autorisation. Donc on a eu les autorisations en septembre 2022. Donc on commence à faire des ventes.
Parce qu'au départ, les investisseurs, et on va peut-être en parler aussi, des gens qui t'ont fait confiance au départ, ils ont accepté d'être très très patients.
Ah oui, bien sûr,
coup.
Bien sûr. Parce qu'en fait, donc il y a encore une fois, donc ça a été quasiment 16 ans d'investissement avant de faire le moindre euro de chiffre d'affaires. Parce qu'il fallait investir pour aller avancer, pour aller découvrir cette technologie, pour faire les process industriels, pour avoir les autorisations, etc., etc. Mais aujourd'hui, voilà, donc les autorisations nous permettent de commercialiser ce produit.
Et donc là, commercialisation en France, en Europe, à l'international.
Alors, en Europe, puisqu'en fait c'est un marquage chez eux, et puis en fait on est en train d'enregistrer les produits en Inde, donc les dossiers sont déposés, en Arabie Saoudite les dossiers sont déposés, aux États-Unis on est en discussion avec la FDA, donc en fait ça sera un produit qui sera en fait à l'international.
Quand on se projette, on est en début 2024, il y a beaucoup de littérature, l'horizon 2030 ou 2040, avec aussi les enjeux de transition indispensables. Comment vois-tu l'évolution des marinas et quelle place pourrait occuper cette entreprise et ce collectif dans les années qui viennent? Tu te vois où dans 5-6 ans?
Sincèrement, en fait, les marinas peut être une très 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 grande big pharma. En fait, on a quelque chose qui est, on a une plateforme technologique que vous avez compris, qui est au centre de tous les processus de la vie. Donc aujourd'hui, en fait, la société pourrait, en fait, bien évidemment, alors c'est bien sûr c'est du conditionnel, mais quand j'ai cette vision-là, pourrait devenir une très grosse société, une pharma en fait, avec donc qui a vraiment tout un champ d'application autour de la cellule, de l'organe, du tissu, etc. Donc je pense que Marina, si vraiment le chemin s'éclaire en fait sur la route des Marina, peut devenir une très très grosse big pharma.
Elle peut rester indépendante ou est-ce que son développement passera nécessairement à un moment ou un autre par l'adossement un grand groupe industriel international?
Alors là, c'est possible, en fait. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on se bat pour rester indépendant. On a eu
des appels du pied
de certaines sociétés pharma, mais ils ne sont pas intéressés partout. Donc ils sont intéressés par la transplantation d'organes, par le pansement, par la sphère buccale, etc., etc. Donc on voit qu'on est très divers, en fait, dans le...
Et ça, c'est la force, finalement.
Ça, c'est la force, mais ça peut être aussi une faiblesse. C'est-à-dire que si on peut être acheté par une société, si l'objectif, la finalité, pour moi, qui n'est pas une finalité, mais si la finalité, c'est celle-ci, on va avoir du mal à trouver une société qui peut tout faire. Donc ça sera soit vendu en appartement, soit on continue à développer notre chemin. Et moi, j'ai envie de développer.
Et voilà, et si on demande à Franck Salle quel est son souhait personnel, on a la réponse.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Dans cette approche du vivant, puisqu'on est au cœur du vivant, hein, dans cette démarche, il y a aussi, j'ai eu l'impression en te lisant, une certaine idée de l'humanisme, du rapport à l'autre, de faire société, de faire humanité.
Oui, c'est vrai. En fait, donc sur mon chemin, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont éclairé le chemin, qui m'ont tenu la main, etc., etc. Et vous savez, moi, ma philosophie de la vie, et puis là, je viens de perdre quelqu'un de très cher de ma famille, et donc je suis allé aux obsèques, j'ai vu comment la vie se terminait, mais j'en avais bien sûr conscience. Et donc moi, ma vie, ma vision, ça n'a jamais été d'être le plus riche du cimetière. Donc finalement, dans la vie, et puis là, c'est le moment des vœux, la prospérité, pour moi, la prospérité, c'est pas d'être le plus riche, c'est de partager, c'est de gagner sa vie pour partager avec autrui. Et donc aujourd'hui, en fait, donc moi, j'essaye d'aider sur mon chemin, de tendre la main. Vous savez, quand ici, je me suis installé dans cette pépinière, j'ai vu un monsieur qui s'appelait Yvon Hervé, qui était président de la communauté de communes. Il connaissait absolument rien à biotech. Il me dit, biotech quoi? T'as une bonne tête, je te fais confiance. Donc rien que pour ça, je peux pas le décevoir. Donc en fait, c'est pour ça que je suis accroché sur mon rocher comme une bernique sur la plage, tout simplement parce que quand on m'a aidé, j'ai besoin de rendre. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et j'ai besoin de rendre.
Et rendre de quelle manière?
Rendre en sauvant des vies, rendre en créant des emplois, rendre en fait en développant la société. Vous savez, nous, on est tous sur ce chemin de vie, on est tous une petite brique qui va permettre de modifier la société en fait dans son avancée. Je dis toujours que ce ver, il a 450 millions d'années, mais notre ancêtre commun qui était Lucie, c'est 3 millions d'années. Les Homo sapiens, c'est 160 000 ans. Et donc en 160 000 ans, on a construit toute cette société. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à un moment donné qui se sont dit, je ne vais pas subir ma vie, mais je vais essayer de modifier en fait la société dans laquelle je vis. Moi, c'est ma vision des choses, c'est-à-dire d'aider, d'avancer, de me battre, de rater, mais de me relever, etc. D'essayer de créer mon chemin et de montrer que c'est possible.
Qu'est-ce qui te fait lever le matin, finalement, Franck Zal?
Les patients. En fait, je peux te dire, Xavier, c'est que quand je tous les jours, et là, il pourrait te le dire, en fait, je regarde mes mails, je regarde les patients qu'on peut aider, à qui on doit envoyer des pansements. Là, tu m'as vu là discuter avec quelqu'un dans le couloir parce qu'il y a des gens de Tours qui veulent le produit pour la transplantation d'organes. Donc moi, ce qui me fait avancer aujourd'hui, c'est vraiment les patients, les médecins, l'avancée technologique. Voilà, et donc et puis surtout, en fait, aider. Tu sais, quand tu as une famille, moi, je sais pas si tu as connu des gens qui donnaient les organes de leur famille. Moi, j'ai connu une fois, j'ai vu en fait dans une réunion une maman qui avait donné les organes de son fils. Donc de son fils qui était un jeune enfant. Et donc quand je sais qu'aujourd'hui on jette un greffon sur deux, donc tu donnes le cœur de ton enfant et le cœur peut aller à la poubelle parce qu'il n'a pas été mal conservé, pour moi c'est tuer deux fois la personne. Et donc moi je ne peux pas accepter ça. Et donc en fait je me bats aussi pour ça parce que la première des applications là c'est vraiment de sauver le plus d'organes possible pour sauver le plus de vies possible, etc. Donc si moi un jour sur mon chemin on dit oui monsieur Zal il s'en est pris plein la tête mais il en est arrivé là et puis il nous a aidé sur notre chemin, je pense que j'aurais réussi ma vie.
Réussir sa vie, c'est plus fort que réussir dans la vie, visiblement.
Oui.
Là, on a bien vu l'importance des relations, des rencontres aussi qui ont jalonné ton parcours. Tu es né à Paris, on le disait au début de cet échange, donc tu n'es pas breton.
Non.
Mais aujourd'hui, tu es un formidable ambassadeur de la Bretagne à travers de toute la démarche que tu portes. Et on sent qu'il y a un attachement particulier avec cette région, avec son caractère, avec ce que l'on y vit et ce que l'on y trouve.
Oui, tu as raison de le rappeler, parce que mes enfants se foutent de moi en disant « Toi, t'es pas breton, t'es parisien », alors qu'eux, ils sont morlésiens. Et donc, c'est vrai que, donc, par contre, je leur dis, en 2018, j'ai quand même été élu breton de l'année. Et donc, en fait, moi, je suis en Bretagne depuis mes 6 ans. Hein, donc, mes parents m'ont envoyé en vacances, en colonie de vacances, par la caisse d'allocation familiale.
C'était pas facile de partir dans le bus, il y a quelques pages là-dessus.
C'était pas très facile, et donc je me suis retrouvé dans le Finistère Sud à Quercydan. Et puis, en fait, pourquoi tu dis ça? Tout simplement parce que je trouve qu'en Bretagne, il faut démontrer. En fait, les Bretons, ils communiquent pas trop par rapport à ceux des Pays de la Loire qui communiquent beaucoup et qui font peut-être un peu moins. Nous, on fait, mais on communique pas beaucoup. Et en fait, souvent, les réseaux bretons, c'est vraiment des réseaux très très forts d'entraide. Et donc, ils disent pas. mais ils le font. Et en fait, j'ai trouvé ici sur le territoire une famille. Moi, ma famille, elle est bretonne. En fait, j'ai beaucoup d'amis bretons qui m'ont aidé, dont le premier, je dis toujours, je le cite beaucoup, parce que c'est, je pense que j'en ai pas beaucoup d'amis, j'en ai un grand ami, c'est Patrick Franchet. Quand quelqu'un vous aide, en fait, sur votre chemin, vous pouvez pas faire autrement que de vous battre pour tout ce qu'il vous a montré, etc. Donc, oui, la Bretagne, c'est quelque chose de, je sais pas, ça vous tient aux tripes. Et donc, moi, je pense être plus breton que les bretons qui sont nés ici, quoi, oui.
Et dernière question avant de se quitter, Franck, même si on aimerait poursuivre encore longtemps cet entretien passionnant, la question de la projection, justement, de l'après aussi. Comment tu vas transmettre? Tu disais que c'est important de partager, de transmettre. Est-ce que tu as déjà anticipé ou imaginé une transmission dans l'entreprise avec tes propres enfants, tes cadres ou tes collaborateurs?
Alors aujourd'hui, je t'avoue non. En fait, mes enfants aujourd'hui, ils m'ont vu trimer en fait dans cette entreprise. Donc mon grand fait du droit. Donc on a toujours besoin d'un avocat.
Oui, ça peut être utile.
Dans une boîte. Mon deuxième est ingénieur. Donc il y a aussi des développements potentiels à faire autour de la technologie. Et puis ma petite dernière, donc elle fait de la biologie. Donc peut-être que un jour elle pourra prendre la suite. Mais en fait. C'est pas une entreprise de génération en génération. C'est une entreprise que j'ai créée des nouveaux. Donc il y a cet attachement parce qu'elle est familiale, mais pas plus que ça. Et donc à un moment donné, on verra comment on m'amènera ce chemin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien qu'elle soit ancrée sur le territoire breton
et qu'elle y reste. Un dernier conseil, peut-être, j'allais dire pour la route, pour partir en ce début d'année avec une idée de « Et si on faisait autrement ?» puisque c'est le titre de notre podcast. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, un jeune qui vient de voir et qui a envie lui aussi de faire ce pas de côté qui permet de faire des grandes découvertes?
Alors, je lui dirais « Crois en toi, ose, n'aie pas peur. On apprend tous à marcher en tombant, on se relève et on avance. Et puis, il ne faut pas tomber trop souvent. Et puis, sinon, on se fait pas mal de bleus, on fait aux jambes. Mais en fait, et ce n'est pas une histoire d'argent. C'est absolument pas une histoire d'argent. Ne vous limitez pas en disant j'ai pas d'argent. L'argent, ça se trouve quand on a des bons projets. Je peux vous dire que moi, j'y croyais pas au démarrage. Pourtant, moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent en fait dans la bouche. Et puis j'en suis là. J'ai levé des millions d'euros pour en arriver là. Et donc, je peux vous dire que vous êtes soutenu. Si vous avez l'énergie pour avancer sur votre chemin, croyez en vous, vous allez réussir. Vous pouvez bouger des montagnes. Vous pouvez vraiment bouger des montagnes avec la volonté.
Voilà, bah écoute, on va suivre ce conseil qui peut même servir de guide pour toute une année et bien au-delà. Merci Franck de nous avoir reçus ici chez toi, chez Aemarina, à Morlaix. Et puis évidemment, on va suivre avec beaucoup d'intérêt tous les développements qui vont suivre dans les mois, dans les années qui viennent. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a fait autrement, on a bien compris à l'issue de cet échange que tu incarnais parfaitement cette attitude avec persévérance, volonté et puis aussi une part de rêve.
Merci à toi Xavier et merci à tous.
Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast « Et si on faisait autrement jusqu'au bout ?» Il vous est proposé par MapInfo, le média des actions positives propulsé par Média Autrement Productions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font autrement. À bientôt !